With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alors mon premier complexe, c'était mes cuisses et mes fesses, parce que j'étais gamin et j'étais un peu plus enrobé que j'aurais voulu l'être. Bon, heureusement, rien n'a changé, mais maintenant, grâce aux Kardashians, c'est tout à fait à la mode.
C'est mes épaules, j'ai des épaules assez larges, enfin toujours très larges même. Depuis que je suis petite, ma mère me répétait tout le temps que le médecin accoucheur, au moment où je suis sortie donc du vagin de ma mère, il m'a attrapée et il m'a dit « Oh là là, est-ce qu'elle est trapue celle-là ?» Et je pense qu'elle, ça la faisait beaucoup rire. Et en plus, bon, comme elle est très fine, elle était un peu en opposition par rapport à moi sur là-dessus. Et elle a passé mon enfance à me dire que j'avais des épaules de nageuse de lest. Au moment où les nageuses de lest prenaient des hormones masculines pour avoir des corps qui leur permettaient de faire des performances plus importantes. Et depuis, je trouve que j'ai des épaules énormes. Et donc, je ne porte jamais de bustier, genre très peu de débardeur et tout, parce que je trouve mes épaules encore trop grosses.
Je pense que c'était aux alentours du CM1, CM2, quand toutes mes copines avaient déjà des seins. Et c'était carrément la mode d'avoir des seins. Enfin, je pense qu'en fait, ça a toujours été la mode. Sauf que voilà, la nature ne m'avait pas encore gâtée. Du coup, j'étais très complexée et j'avais trouvé une idée complètement débile de me mettre des escalopes dans la brassière. Ouais, on portait des brassières. Et c'était pas fou niveau odeur l'été, je vous avoue. Du coup, j'ai eu une autre idée, tout aussi débile, mais c'était de leur parler. J'avais vu ça dans un film. Et du coup, je parlais à mes seins en disant « Allez-y, poussez, poussez, poussez ». Et finalement, c'était peut-être pas si idiot puisque ça a marché quelques années plus tard.
Quand j'étais petit, j'avais les oreilles décollées. Alors au début, ça ne perturbait pas plus que ça. Et c'est quand les moqueries à l'école ont commencé que j'ai compris que j'avais pas les mêmes oreilles que tout le monde. De plus, il n'y avait pas d'autres enfants à l'école avec les oreilles décollées, donc j'avais vraiment le sentiment d'être différent. Et c'est un truc qu'après je ne faisais que voir. C'était vraiment, je voyais rien d'autre que mes oreilles dans le miroir. Donc déjà très petit, j'étais conscient qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et c'est vraiment les regards extérieurs qui me le faisaient ressentir.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Pagini, bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de Miroir Miroir. J'espère que vous avez passé un très bel été et que vous êtes prêts et prêtes à cette rentrée des podcasts. L'année dernière, je m'étais intéressée à la déconstruction des modèles dominants en termes de représentation liée au corps et à l'apparence, en évoquant avec des invités super éclairants et intéressants les personnes qu'on ne voit jamais dans les médias. Cette année, on continuera sur cette voie, mais en vous proposant des solutions concrètes pour dépasser ces injonctions sur nos corps et sur la manière dont elles nous impactent. Pour démarrer cette saison, quoi de mieux que de commencer par l'enfance, là où nos premiers complexes surviennent pour faire de nous des adultes soucieux de l'image qu'ils renvoient dans cette société très normée. Moi, je ne sais pas vraiment à partir de quel âge mes complexes ont débuté, mais je pense que juste le fait de ne jamais vraiment me voir à la télé dans des shows comme Hélène et les garçons, oui, j'assume, ou dans les magazines dits féminins comme Jeune et Jolie, m'a fait comprendre que je ne rentrais pas dans une certaine norme, c'est-à-dire être blanche, aux yeux clairs et avec les cheveux lisses. En étant petite, je réalisais pas vraiment l'impact que ça pouvait avoir sur moi, comme on me disait que j'étais une petite fille jolie, mignonne, voilà, comme on le dit souvent aux enfants. C'est plus à l'adolescence que ça commence à travailler, en rêvant d'avoir une certaine poitrine, en se disant qu'on pourrait être plus mince, etc. Avec l'entrée dans un monde sans pitié, où malheureusement, la course à la personne la plus stylée et populaire du lycée arrive. Je me demande alors, n'y a-t-il pas autre chose à retenir que son apparence ? Comment peut-on faire quand on est parent ou éducateur d'un enfant pour ne pas imposer ses normes dès le plus jeune âge ? Et surtout, comment les représentations peuvent-elles jouer un rôle essentiel dans la construction personnelle d'un enfant et d'un adolescent ? Pour parler de tout ça et comprendre comment ces questions se jouent dès notre naissance, j'invite Emma Levillère, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans la thérapie des enfants, des adolescents et de leur famille. Elle est également autrice de Décomplexe-moi, le mal caché de nos enfants, aux éditions Coup de gueule. Bonjour Emma.
Bonjour.
Merci d'être avec moi aujourd'hui.
Avec plaisir.
Donc vous êtes psychologue clinicienne et vous vous intéressez particulièrement à l'enfant, à l'adolescent et à leur famille. Dans les motifs de consultation, vous dites que l'enfant et l'adolescent sont souvent concernés par des maux comme les troubles alimentaires ou des problèmes de confiance en soi. Comment on peut détecter ces troubles quand on est parent ou éducateur ? Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas pour pouvoir faire le pas de consulter ?
Alors, il y en a quelques-uns qui sont principalement des modifications de comportement. Ce qui peut être assez étonnant, c'est que c'est pas forcément des modifications négatives. On peut avoir un enfant qui est timide et qui va devenir très bavard, très sociable. On va se dire, bah, c'est une bonne nouvelle. Ça peut l'être. La question pour savoir s'il faut consulter, si quelque chose pose réellement problème, c'est plutôt la durée. Est-ce que ça dure plus d'un mois et est-ce que ça va en augmentant ? Là, que ce soit négatif ou positif, il faut au moins en discuter avec l'enfant pour voir s'il y a quelque chose de sous-jacent.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un complexe et à partir de quel âge à peu près il se forme ?
Oui, alors il y a plusieurs types de complexes et j'en fais bien la différence dans mon ouvrage. Il y a le complexe psychologique ou psychanalytique au sens propre, on va dire le complexe d'Œdipe, le complexe d'infériorité ou le complexe de sevrage chez Lacan. Ceux-ci sont des complexes, on va dire, obligatoire. Voilà, on va tous passer par ça. Le mot complexe, il est choisi pour expliquer qu'il y a une situation compliquée qu'on doit passer. Et ensuite, il y a les complexes au sens généraux du terme. Je me trouve trop petit, trop grand, trop bête, voilà, etc. Et ça, c'est plutôt ce que je traite dans mon livre, qui sont des complexes. Alors, bien évidemment, on va tous passer par là, hélas. Mais par contre, ils vont tous être très différents en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle a vécu et en fonction de sa subjectivité. Donc, il y a deux types, on va dire que les deux ne sont pas forcément gravissimes, mais il y en a un qui est le même chemin pour tous et l'autre tout à fait subjectif.
Donc, vous donnez une définition du complexe basée sur le vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis. Donc, je cite, « C'est un ensemble organisé de représentations et de souvenirs à forte valeur affective, partiellement ou totalement inconscient. Un complexe constitue à partir de relations interpersonnelles de l'histoire infantile. Il peut structurer tous les niveaux psychologiques, émotions, attitudes, conduites adaptées. » Donc, si je comprends bien, tous nos complexes, en fait, se créent à partir de souvenirs plus ou moins inconscients survenus dans un cercle familial ou quotidien, par exemple l'école.
Alors oui et non. Ça, c'est la définition du complexe au sens psychanalytique et psychologique du terme, donc le complexe d'Œdipe, par exemple, le complexe d'infériorité. Il n'y a pas de définition dans la psychologie du complexe standard, physique ou mental, du complexe qu'on peut extérioriser et verbaliser facilement. Cependant, on peut dire que si on devait le définir, ça se rejoindrait un petit peu. Tous les deux, ils vont se baser sur des souvenirs chargés émotionnellement, souvent négativement, mais pas forcément. Et ça va dépendre de notre positionnement par rapport à ce trait-là, le positionnement qu'on prend en fonction de nos souvenirs. Par contre, le complexe au sens psychanalytique, il est souvent inconscient, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on agit de telle ou telle façon, ou on le sait un petit peu, mais pas totalement. Le complexe général, en général, c'est conscient. C'est-à-dire qu'on sait qu'on se trouve trop petit, par exemple, et on se souvient très bien de la fois où quelqu'un nous a pointé du doigt en disant « tu fais pas la taille qu'il faut » et où ça a commencé à nous complexer. Donc la différence est peut-être dans notre capacité à savoir d'où ça vient.
Mais du coup, qui est responsable dans la création de nos complexes ?
Eh ben, c'est là la grande difficulté. Personne, et tout le monde, et nous-mêmes y compris. Le complexe, c'est tout à fait subjectif. Mettons, on va reprendre le même exemple, trop grand ou trop petit. Bon, ben, on prend des enfants qui sont tous de la même taille. Pour autant, ils vont pas tous être complexés par le fait qu'ils soient trop petits ou trop grands. La difficulté dans le complexe, pour savoir d'où il vient, c'est presque impossible parce qu'on a... Et la norme sociétale qui va nous faire croire que ceci est normal et ceci est anormal. Le nom de norme, d'ailleurs, pose problème. Moi, c'est un mot avec lequel je pratique pas en thérapeutique parce que je ne le comprends pas, tout simplement. Et après, il y a notre sensibilité, notre personnalité, le vécu, les expériences qu'on va avoir. Donc, on peut dire que, bah, il vient de partout et il vient de nulle part en même temps.
Je me demande comment les médias, la publicité et Internet, plus généralement, peuvent avoir leur rôle à jouer dans la création de ces complexes-là. Par exemple, est-ce que les réseaux sociaux ont été vecteurs de complexes supplémentaires à partir du moment où ils ont été créés ?
Alors, c'est certain que de manière contemporaine, les réseaux sociaux et les médias sont tout à fait problématiques. D'ailleurs, je pense que depuis 4-5 ans, il y a une réalisation de ça, il y a des changements qui sont en train d'arriver. La preuve avec votre podcast, par exemple, qui est un média aussi comme un autre. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la société, elle est ce qu'on en fait. Et que c'est nous qui avons utilisé ces outils et qui les avons rendus de cette façon-là. A priori, je pense que la tendance maintenant est d'en sortir, mais pour les plus jeunes, c'est une énorme influence pour l'instant. Qui on est sur Facebook, qui on est sur Instagram, combien de likes, combien de followers on a, c'est parfois une des seules choses qui nous permet de sentir notre propre valeur. Alors, justement, les réseaux sociaux commencent à se modifier en enlevant les likes, les commentaires désagréables, racistes, haineux, etc. Et je pense qu'ils sont conscients de l'influence qu'ils ont.
Mais est-ce qu'il y a cette idée de comparaison aussi qui est amplifiée ?
Est-ce qu'elle est amplifiée ? Je ne le sais pas. J'étais pas là avant pour le voir. J'étais toute jeune adolescente quand Internet est arrivé, donc on peut dire que j'ai grandi avec ça. Je pense en toute honnêteté que la comparaison, elle a toujours été là. Ça, c'est notre société humaine. Et d'ailleurs, les complexes en soi et la comparaison, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut nous permettre d'évoluer, de nous challenger, de nous rendre meilleurs et meilleurs, etc. La problématique, c'est quand ça devient un obstacle.
Quand on parle de représentation, on a souvent l'impression que c'est juste une image à mettre en avant, mais est-ce que ça peut avoir un impact psychologique chez un enfant ? Par exemple, avoir une Barbie avec des formes ou regarder des dessins animés type les princesses Disney avec des personnages qui ressemblent à l'enfant. Je pense récemment à l'annonce de la petite sirène qui sera noire pour la première fois. Est-ce que voilà, une petite fille noire, par exemple, qui regarderait ce dessin animé, ça pourra jouer dans la formation ou non des complexes qu'elle aura plus tard ?
Oui, c'est certain. On peut le voir assez facilement, par exemple, dans la notion du poids, qui a changé au fil des âges. Il y a eu des tendances, notamment à la Renaissance, où être bien en chair, c'était ça qu'il fallait. Si on était mince, comme soi-disant il le faut en ce moment, c'était une très mauvaise chose. Donc c'est certain qu'on est influencé par la norme, d'autant plus que, et on en reparlera peut-être, l'idée dans la société pour pouvoir être dedans, pas isolé, s'y accomplir et y réussir, c'est quand même d'avoir un minimum de complexe et de réussir à être, on va dire, normal. Donc si on n'est pas représenté, on peut, de manière consciente ou inconsciente, se dire que on n'est pas normal et qu'on a un problème alors qu'on n'en a pas. Donc bien entendu, la représentation, c'est au cœur de notre découverte de nous-mêmes.
Vous expliquez dès le début de l'ouvrage que celui-ci est destiné aux parents, futurs parents ou aux éducateurs de toutes sortes. Comment leur manière d'éduquer peut-elle avoir un impact direct sur le développement de l'enfant ?
Elle va avoir un impact déjà parce que ce sont les personnes les plus influentes, c'est-à-dire dans le sens où, en général, quand on dit parents, figure parentale, ça peut être des professeurs, ça peut être des oncles, des tantes, des beaux-parents, et les éducateurs, donc toutes les personnes qui ont en charge d'éduquer légalement, entre guillemets, nos enfants, eh bien déjà, les enfants les écoutent plus que les autres. Donc là, ils ont déjà une première pierre de leur côté. Et ensuite, ils sont au contact des enfants quotidiennement. Donc c'est eux, comme on en parlait précédemment, qui peuvent repérer s'il y a un changement de comportement, s'il y a des difficultés, s'il y a une régression, si l'enfant commence à raconter des histoires, etc. Plus rapidement, ils vont être en capacité de questionner, pas forcément d'intervenir, mais de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Plus rapidement, le problème va être entériné. Et la difficulté psychologique majeure, que ce soit les complexes ou autres, ce qui nous fait souffrir en général, c'est quand ça fait longtemps qu'on pense quelque chose et donc on pense que c'est vrai. Donc quand les parents et les éducateurs réagissent rapidement, en général, on peut passer à autre chose.
Mais par exemple, est-ce qu'un enfant dont les parents n'arrêtent pas de lui dire qu'il mange trop, sinon il va grossir, a plus de chances de développer des troubles du comportement alimentaire qu'un autre, qui aurait été plus ou moins libre face à la nourriture ? Ou un autre exemple, une adolescente en pleine puberté développera plus de complexes liés à son corps si elle ne voit que des publicités avec des femmes au corps très mince.
Alors, parfois oui, parfois non. Ça dépend bien sûr de l'entourage. Hein. C'est certain qu'un entourage qui est très désagréable et très critique, ça va pas aider un enfant, ça c'est certain. Maintenant, il y a une palette de sensibilité, de personnalité, donc de réaction et de possibilités de complexe. Et de la même façon que précédemment avec la taille, on peut prendre deux enfants d'une même fratrie qui ont eu a priori le même style d'éducation. Il y en a un qui va peut-être être très complexé, l'autre chez qui ça va permettre une résistance et qui va avoir une confiance assez étonnante. Donc on va dire que c'est une possibilité de déclenchement, c'est pas une obligation pour autant.
Mais les commentaires parfois hyper désobligeants de parents qui pensent bien faire, mais qui ont un peu leur tête de turc parmi leurs enfants, ça crée quand même des futures personnes qui sont soit mal dans leur peau, soit avec des troubles du comportement.
Alors vraiment, ça dépend comment ça va être reçu. Par contre, si ça ne crée pas de complexe, c'est certain que ça n'a aucune utilité. Ça ne servira à rien pour l'enfant, ça ne va pas le challenger, ça ne va pas le motiver. On le sait maintenant, même au niveau, là on sort de la psychologie, au niveau neurologique, les punitions désagréables ou restrictives, je vais te priver de ça ou tu n'arriveras pas, ça ne marche pas. Neurologiquement, ça donne envie d'arrêter et au contraire d'arrêter d'essayer d'être meilleur. Maintenant, est-ce que ça va créer des complexes? Honnêtement, pas forcément.
Mais est-ce que le fait de cultiver la différence ou l'altérité dès le plus jeune âge, permettra aux enfants de devenir des adultes hyper libres, qui auraient confiance en eux très facilement.
Alors, c'est certain que ça va leur permettre, s'ils rencontrent un complexe qui est obligatoire, peut-être d'avoir une capacité de rationaliser, de réfléchir, de faire le deuil, parce qu'on est tous imparfaits, donc on est obligé de faire le deuil sur certains traits de notre personnalité. Après, il y a des enfants qui ont eu des environnements tout à fait aimants, et il y a eux-mêmes une expérience, un ami, un professeur, peut-être parfois même très tardivement, qui va les challenger ou les critiquer. Et là, parce qu'ils n'ont absolument pas eu l'habitude d'être critiqués, ils vont s'effondrer, ils vont devenir très complexés. Donc, encore une fois, tout est possible. Mais c'est sûr qu'avec des parents qui cultivent la différence, la capacité d'évoluer, mais surtout qui donnent à leurs enfants des modèles qui leur ressemblent en fonction de leurs difficultés ou des traits qu'ils n'aiment pas chez eux, ils vont leur faciliter la tâche.
Et concrètement, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux parents, futurs parents, et même aux enfants qui nous écoutent peut-être ? Est-ce qu'il y a des basiques à apprendre, des choses à ne jamais dire ou faire ?
Alors, oui, ça c'est certain qu'il y en a. Je dirais même que c'est peut-être des conseils de parentalité standard, que ce soit pour les complexes ou autres. La première chose qui est très difficile, je pense, en tant que parent, c'est d'accepter qu'on est imparfait. Voilà, on peut avoir les meilleurs ou les pires parents du monde. De toute façon, tous les adultes disent « Moi, je ne ferai pas exactement la même chose que mes parents. Je changerai ceci, je changerai cela. » À partir du moment où on accepte que c'est pas possible d'être parfait, on va avoir une possibilité de s'adapter, notamment à chaque enfant, puisqu'ils sont tous différents s'il y a plus qu'un enfant dans la fratrie. En s'adaptant, on va avoir une possibilité de répondre à sa demande. D'ailleurs, en psychanalyse, qui a été un petit peu un moment dans une position difficile et houleuse parce que la psychanalyse avait bêtement critiqué les parents en pensant que c'était eux qui causaient tous les problèmes. Il y a un terme qui a été créé par Winnicott qui s'appelle la mère suffisamment bonne, ce qui laisse bien entendre qu'on peut pas être parfait. Et il reprenait une expression de Mélanie Klein qui, elle, disait l'expérience suffisamment bonne, parce que pareil, il n'y a pas d'expérience parfaite. Donc s'ils acceptent ça, déjà, ils sont sur un bon terrain. Ensuite, c'est plutôt des conseils si on pense qu'il y a peut-être un problème. La première chose, c'est de communiquer, c'est surtout de ne pas essayer de trouver une solution. D'abord, d'essayer de comprendre. Parfois, on est inquiet, il n'y a pas de raison de l'être. Parfois, on pense que ça va bien et finalement, il y a une raison d'être inquiet. Si on voit qu'il y a quelque chose de difficile, avant même de trouver une solution, une fois qu'on a communiqué, je dirais d'abord réparer. consoler, discuter, câliner en fonction des âges, et ensuite relancer. Et ça, c'est ce que je conseille dans mon ouvrage, comme vous le disiez, au niveau de la représentation, c'est-à-dire de trouver éventuellement des modèles plus adaptés, peut-être que celui que l'enfant s'est trouvé lui-même. Et que ne pas faire, c'est difficile, mais pour les complexes, principalement la comparaison. C'est très difficile, surtout qu'il y a des traits génétiques qui sont partagés, donc... Prenons le même exemple, si on se trouve trop petit et que l'enfant est aussi trop petit, il peut avoir du mal à oser dire que ça lui fait de la peine, parce qu'il se dit, en le disant, je vais faire de la peine à mon parent. Et bien entendu, si on voit qu'il y a un trait qu'il n'aime pas, encore une fois trop petit, évitez d'amplifier, donc évitez de critiquer ça, mais aussi évitez de minimiser. Souvent, les parents, pour se rassurer, ont tendance à dire, mais c'est pas grave, tu vas peut-être grandir, etc. Pour l'enfant, ça ne sert à rien de faire ça. On peut le faire entre adultes pour se calmer.
Ça lui donne des faux espoirs.
C'est ça. Et ça lui fait croire éventuellement que son problème, c'est pas un problème. Alors, de notre vision d'adulte, on a vécu d'autres choses. Ça peut paraître tout petit, mais quand on a 6, 7, 10 ans, ça peut être une énorme chose.
À un moment, dans votre livre, vous écrivez un passage très intéressant. Je cite « Qu'est-ce qu'être unique ? Qu'est-ce qu'accepter ça ou ses différences et en faire le terrain d'amplification de sa personnalité, plutôt que de se laisser écraser par la norme ?» Et je me demande, qu'est-ce que c'est cette norme ? Est-ce que c'est la même déjà pour les filles et pour les garçons ? Et puis, est-ce que c'est cette norme en fait de blancheur, de minceur, de beauté et de réussite à la fois ?
Alors, d'un côté, elle est universelle, elle est partout la même. Y a des lois, par exemple, ne pas tuer, qui sont tout à fait universelles. Ça fait partie de la norme. Et dans ce point-là, on peut dire que la norme, c'est salvateur quand même. C'est ce qui nous permet de vivre en société. Ensuite, bien sûr, elle est adaptable. Par exemple, si on reprend la loi, les crimes ne sont pas punis des mêmes peines ou parfois pas punis dans certains pays et dans d'autres. Ce qui est intéressant avec la norme, c'est qu'elle est à la fois nécessaire, puisque sinon la société irait dans tous les sens et ce serait difficile d'évoluer au niveau des générations, et sur certains points, notamment pour les minorités, elle est aussi un acte de stigmatisation, puisque elle évolue en général après coup. Elle évolue quand elle est allée de manière trop fermée, blesser des gens pendant des générations et des générations. Donc elle est à peu près la même, parfois changeante, et espérons-le, mais ça a l'air d'être le cas durablement, elle va évoluer de manière à nous permettre d'être tous normaux, si c'est un mot qui existe.
Mais est-ce que les filles sont plus touchées par ça, par exemple ? Notamment avec ces questions de corps, d'apparence, de représentation
En toute honnêteté, actuellement, je ne crois pas. Si vous voyez les pubs masculines, je pense que les abdos par 8, c'est pas quelque chose qui est possible pour tous les hommes. L'épilation, etc. Enfin bon, ils ont des standards de beauté qui sont inatteignables. Ils ont d'autres pressions. Hein. Si on prend les choses traditionnelles, par exemple, de devoir ramener de l'argent dans le foyer, c'est une pression sociétale. Mais ça, tant que c'est pas durable dans le temps et ça vise à s'évoluer, on peut parler que d'une norme contemporaine. Est-ce que en ce moment il y a plus de difficultés pour les femmes au niveau de la norme? Je sais pas. Au niveau de leur traitement, au niveau des comportements, sûrement. Mais est-ce que ça c'est la norme? Est-ce qu'on dit ouvertement ce qui est normal, c'est de faire tant de poids? Je ne sais pas. Je pense que c'est culturel.
Vous pensez pas qu'il faudrait aussi cultiver des compliments qui soient pas toujours liés à l'apparence? Par exemple, dire à un enfant qu'il est intelligent ou curieux ou gentil. Est-ce que ça aiderait pas à se construire autrement, sans avoir l'impression de toujours tourner autour de son physique pour se donner des qualités?
Bah, tout à fait, ce serait exceptionnel si tout le monde, même pour les adultes d'ailleurs, pouvait faire ça. Alors moi j'ai recueilli pour cet ouvrage pas mal de témoignages. Il se fait que sans demander, 70% de ces témoignages sont quand même sur l'apparence physique. Je pense tout simplement parce que c'est visible, il y a plus de critiques à l'encontre de notre apparence. Bien entendu, l'idéal pour un enfant en construction, c'est de comprendre que l'apparence... Déjà, contrairement à tout le reste, c'est très facilement modifiable, donc ça a finalement peu d'importance si on aime ou on n'aime pas ceci ou cela, puisqu'on peut en général le transformer plus ou moins médicalement et plus ou moins difficilement. Par contre, nos capacités d'empathie, notre personnalité, notre intelligence, il y a quand même un petit terrain inné, on va dire. Et je pense qu'en effet, oui, mettre la clé sur ces points-là pour faire démarrer la confiance en soi, c'est une très bonne idée.
Oui, mais ça va ensemble, finalement. Parce que plus on est accepté socialement, ou en tout cas considéré comme beau ou grand, ou en tout cas avec des normes physiques socialement valorisées, on sera forcément plus apte à être gentil, en tout cas pas gentil, mais en tout cas à correspondre aux qualités de la bonne personne.
Alors, oui, on va être plus facilement accepté par les autres. Par contre, aussi étonnant que ce soit, le fait est que les personnes qui sont « beaux » entre guillemets dans les normes sociétales et qui le savent ou qui en ont une certaine conscience, en général, sont très très loin d'être les plus gentils. Ils finissent par se retrouver un petit peu isolés. Moi, je pense que justement, avoir des complexes, y compris physique, mais pourquoi pas intellectuel, émotionnel aussi, c'est quelque chose qui va nous challenger à être empathique, à être gentil, à essayer de comprendre les gens, à essayer de se faire des amis. Je pense honnêtement que c'est pas un avantage d'être beau. Surtout si on le sait, surtout si tout le monde nous le dit, parce qu'à ce moment-là, à part être beau, on n'a rien à faire. Et une fois arrivé adulte, on peut être dans la difficulté avec une personnalité un petit peu trop froide qui se repose un petit peu sur ses lauriers.
Je me demande aussi si on développe des complexes de la même manière selon où on habite, selon le pays, selon l'éducation donnée, selon l'origine sociale. Comment ça se passe selon sa géographie ?
Ah ben, en effet, c'est tout à fait différent. Alors, bien sûr, on peut retrouver dans le monde entier des questions de taille ou de poids, puisqu'on a maintenant quand même Internet, les réseaux sociaux, les magazines internationaux qui véhiculent une norme complète. Cela dit, bien entendu, dans certains pays, on va avoir des cultures et donc des complexes différents, et parfois au sein du même pays, par exemple la France, qui est quand même un pays avec des cultures mixtes, ou aux États-Unis de la même façon, on va avoir des complexes en fonction de la culture, des personnalités. On peut imaginer, par exemple, qu'un enfant d'une famille athée française va peut-être être complexé sur le fait qu'il n'a pas trouvé un terrain scientifique, intellectuel à développer, et qu'un enfant d'une même famille française aussi, mais religieuse de n'importe quelle religion, va peut-être être complexé de ne pas être assez bon au sens du divin et de ce qui peut être demandé dans les textes religieux. Donc en effet, même dans les mêmes écoles, même dans le même immeuble, on peut trouver des complexes différents. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes, quand j'ai recueilli les témoignages, qui ont témoigné sur des complexes qui étaient tout à fait étonnants, de composition familiale, de choix religieux, de choix vestimentaires de leurs parents, et c'était ça leur sujet de complexe.
Quel est l'impact que vous voulez avoir avec votre livre ?
Alors, idéalement, j'aimerais bien aider les parents et les éducateurs. Je vous avoue que j'étais assez étonnée. J'ai rencontré mon éditeur et on s'est mis d'accord sur le fait d'écrire cet ouvrage. Et quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'ouvrages sur comment avoir confiance en soi, comment être heureux. Mais il n'y avait pas eu depuis 98, je crois, un ouvrage sur les complexes. Et encore en 98, c'était un ouvrage très psychanalytique qui se basait quand même plus sur les complexes au sens Oedipe, etc., que sur les complexes physiques. Alors moi, je trouve ça très bien de prôner aux enfants d'avoir confiance en eux, mais encore faut-il qu'ils résoudent un petit peu les problèmes s'ils en ont avant. Donc j'espère que ça va les aider. Et surtout, moi, je travaille dans mon cabinet avec donc des enfants, des adolescents, des familles. Le fait est que je travaille principalement avec des jeunes adultes, puisque jusqu'à 25-30 ans, on a une période qui s'appelle l'épreuve de réalité, qui nous met dans des mouvements adolescents, et c'est quelque chose qui nous suit assez tardivement. Et donc la notion de pas pouvoir, parce que ça n'existe pas, être normal, et donc que tout le monde est anormal, et que donc tout le monde est normal par équation, je pense que c'est quelque chose, si on arrive à évoluer là-dessus, qui va nous permettre d'avoir des jeunes adultes et des générations plus accomplies, plus téméraires, plus stables, et tout simplement plus heureuses. Et puis, bien entendu, chez les enfants, chez les adolescents et aussi chez les jeunes adultes à un petit peu un moindre niveau, il y a une capacité de transformation qui est énorme. un adulte de 50 ans qui a été complexé par sa taille, ça va peut-être lui prendre des années, ou peut-être qu'il va juste réussir à en souffrir moins. Un jeune enfant, il a une capacité de rebond qui est extraordinaire, peut-être que 6 mois après, il n'y pensera même plus.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans une société où on essaye plus de se développer personnellement, si je puis dire, ou en tout cas de gagner de la confiance en soi, de régler quelque chose sans savoir l'origine du problème ?
Bah oui, c'est certain, on est dans une tendance à être tous heureux, ce qui est, pourquoi pas, une bonne tendance. Encore faut-il composer avec la société, être tous heureux quand on doit toujours travailler plus, quand on a les transports en commun, les salaires qui n'augmentent pas forcément, les loyers qui augmentent, etc. Je pense que finalement, c'est une pression sociétale supplémentaire qu'on a sur les épaules. D'ailleurs, on le voit avec la tendance de la méditation, du yoga, qui sont honnêtement de très très bonne chose à faire pour pouvoir être mieux dans sa peau. Si on le fait par obligation, en se disant je dois à la fin me sentir mieux, on a peu de chances que ça arrive, ou en tout cas avec une angoisse latente.
Comment sortir des schémas parentaux qui se répètent trop souvent, avec des parents parfois trop ou pas assez présents, trop ou pas assez affectifs? Comment trouver le juste milieu dans l'éducation de ses enfants?
Alors, je vais me répéter, mais il n'y a pas de juste milieu, puisque tout le monde est de toute façon imparfait en tant que parent. On n'entend pas une seule femme adulte ne pas prononcer un moment de sa vie « je ne voudrais pas être comme ma mère » ou « je ressemble à ma mère », ce qui veut dire « je ne veux pas l'être ». Pour autant, la mère est peut-être très bien, elle a peut-être très bien fait son rôle, mais il n'y a pas un seul enfant qui sera satisfait à 100%. Le conseil principal pour changer les schémas, un, c'est d'accepter d'être imparfait, encore une fois, et de se dire que c'est pas grave, on a le droit de se modifier. Et éventuellement, si on voit qu'on n'arrive pas à se modifier et qu'on est dans l'impasse, pourquoi pas faire une introspection, pourquoi pas faire une thérapie personnelle et chercher pourquoi on se sent dans l'obligation d'être si gentil ou si dur en fonction des deux tendances. Mais enfin, le schéma, il faut aussi partir du principe que voilà, on peut évoluer, on peut s'améliorer, on sera jamais parfait. Il y aura toujours un schéma et il y aura toujours un enfant dans la fratrie, s'il y en a plusieurs, qui ne va pas apprécier ce schéma-là.
Pour finir, est-ce que vous pourriez recommander des ouvrages qui vous apparaissent essentiels pour mieux comprendre le rapport au corps et à l'image chez l'enfant, ou qui donne tout simplement des outils d'analyse, comme vous venez de le faire, pour déjouer les complexes qui se créent chez l'enfant ou chez l'adolescent?
Oui, bien sûr. Alors, dans mon ouvrage, j'ai listé des ouvrages plutôt de contes, de lectures pour les parents, pour discuter avec leurs enfants. Mais là, je vais laisser ça de côté et plutôt discuter d'ouvrages qui sont vraiment instructifs sur la psychologie des enfants. Je tiens quand même à préciser, avant de donner leur titre, que c'est pas le rôle du parent d'être psychologue de l'enfance. Donc, il peut lire, il y a aucun problème, c'est un bon enseignement. Maintenant, il faut pas non plus lire à foison et essayer d'appliquer. Sinon, on risque de se rendre compte que ça ne marche pas et de repartir rebelote en se disant que bon, on est imparfait. Donc voilà, il faut les lire, pourquoi pas, si on en ressent le besoin. Je pense que c'est pas une obligation. Chaque parent peut aussi apprendre dans la pratique avec ses enfants, c'est ça qui marche réellement. Alors, pour les ouvrages que je peux recommander, c'est des ouvrages qui sont professionnels mais qui sont accessibles. C'est pas des ouvrages que je recommanderais à des collègues, de toute façon, c'est un peu la base, donc je pense qu'ils l'auraient déjà lu. Évidemment, il y a Françoise Dolto, qui est quand même la reine de la pédagogie. Pour les adolescents et le mouvement adolescent, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le complexe du homard », qui est très connu. Celui-là, il est très utile pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que même si ça s'est très bien passé jusque-là, ça peut tout d'un coup très mal se passer, ça peut être difficile. Il y a un autre auteur qui s'appelle Philippe Guton, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le pubertaire » et qui explique ce passage-là aussi. Et ensuite, plus pour comprendre qu'on n'est pas obligé d'être parfait, il y a justement donc celui qui avait inventé le terme « la mère suffisamment bonne » qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'enfant et sa famille ». Il en a écrit d'autres qui sont un peu du même style, mais ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses, plutôt sur la petite enfance. Ensuite, pour la norme, je trouve que c'est un ouvrage intéressant. Pas forcément facile à lire, mais il faut le lire en diagonale en se disant que si on comprend pas des choses, on les saute et c'est pas grave. Mais vous avez un ouvrage de Sigmund Freud qui s'appelle « Malaise dans la civilisation » et qui est assez intéressant sur la question de la norme, de ce que ça peut jouer à l'intérieur de nous sans qu'on en ait l'impression. Je dirais que celui-ci, c'est un ouvrage que je conseille à toutes les personnes en passe de devenir adultes s'ils l'ont pas déjà lu. Les parents et tous les autres. Il y a un ouvrage pour les complexes, très particulièrement, qui est pas mal, de Boris Cyrulnik, donc qui est très connu et très en vogue en ce moment, qui est neuropsychologue et qui a étudié la psychanalyse, qui s'appelle « Les vilains petits canards », et qui explique justement comment on peut se débrouiller avec cette impression de pas être assez quoi que ce soit.
Merci beaucoup, Emma.
Mais je vous en prie.
Merci, Emma. Et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter, mais surtout à me partager vos réactions, vos commentaires, vos avis. Je les lirai avec plaisir. Je vous dis à dans 2 semaines. À très vite.